Bonjour à tous. Alors, il m'est agréable de commencer en remerciant particulièrement mesdames du comité d'organisation et monsieur le professeur Coiffe pour la tenue de ce bel événement. Alors, la tâche qui est la mienne aujourd'hui est de vous parler de la responsabilité environnementale de l'entreprise et du droit pénal de l'environnement dans le contexte tunisien. Et il va s'agir de la verdeur de leur noce de coton. Alors, pourquoi cette métaphore? Tout simplement parce que la responsabilité environnementale de l'entreprise et le droit pénal de l'environnement en Tunisie illustrent la symbolique d'une union qui est délicate et naissante entre l'engagement volontaire et la force contraignante du droit qui sont alors tout début et essaient de coexister harmonieusement ensemble. Pour sceller le devenir, et je fais un clin d'œil au précédent colloque, au ferment d'une justice environnementale restauratrice. Alors, face aux enjeux environnementaux qui sont contemporains, le mariage allie des logiques qui d'apparence s'opposent. Alors, l'idée à défendre ici est qu'elles se complémentent en réalité à travers la recherche de la durabilité, une durabilité économique éthique dont l'entreprise serait l'acteur principal. Et je prends pour pierre de touche l'article 3 de la loi RSE 2018. Selon l'article, il s'agit d'un principe adopté par les entreprises dans le cadre de leur engagement à assumer la responsabilité de l'impact de leur activité sur la société et l'environnement à travers un comportement transparent, bénéfique à la société. Donc, c'est ainsi que la RSE, dans sa dimension environnementale, repose sur l'idée que les entreprises, en leur qualité d'acteurs économiques majeurs, doivent contribuer, on l'aura compris, de manière proactive par des engagements volontaires à la protection de l'environnement. Mais en contrepoint, il leur faut aussi respecter les obligations légales et pénales qui se dressent. Dans notre système juridique, le droit pénal de l'environnement est une discipline qui est récente, qui vise à prévenir et réprimer et réparer les atteintes à l'environnement. Les approches, donc, essaient de se croiser, de se recouper autour de l'objectif devenu commun de promotion d'une justice environnementale effective. Le rapprochement, on l'a vu ce matin, témoigne d'une évolution des paradigmes juridiques pour mieux prévenir et réparer les atteintes environnementales. L'idée est qu'en explorant d'un point de vue théorique la teneur de l'interaction, il faut placer l'entreprise et le rôle de l'entreprise et la redéfinition du rôle de l'entreprise au cœur de l'analyse et montrer en quoi l'entreprise peut-elle réellement être motrice d'un nouveau standard de gouvernance éthique dans la perspective d'une société qui serait tournée vers un développement durable. Situer sur un même horizon la crédibilité de l'autorégulation de la RSE et les leviers coercitifs du droit pénal, ça participerait d'un point de vue pratique de l'accompagnement cohérent des entreprises dans leur transition vers des pratiques durables, à partir du mouvement d'hybridation de plus en plus observé aujourd'hui de la soft law à la hard law, qui est aussi un marqueur particulier de la transdisciplinarité du droit de l'environnement. Donc, à l'aune de notre sujet, cela permettrait de montrer que la douceur et la souplesse des engagements volontaires représentés par la RSE ont besoin du droit pénal, dont la fermeté est indispensable pour assurer l'efficacité réelle, et qu'en même temps, l'interaction amorcerait une sorte de reconfiguration des fonctions cardinales assignées au droit pénal. La question qui est d'importance alors, elle est celle de savoir dans quelle mesure l'interaction de la responsabilité environnementale de l'entreprise et du droit pénal de l'environnement permettrait de tendre vers une justice environnementale restauratrice dans le contexte tunisien, le contexte d'un pays en voie de développement. La réponse participe de la mise en exergue d'une interaction au plan d'une contribution aux fonctions cardinales du droit pénal de l'environnement par le levier mobilisateur de la RSE. Et de manière plus originale, au plan du renforcement de la responsabilité pénale de l'entreprise, il s'agirait de montrer en quoi le levier de la RSE pourrait être exponentiel. Donc, Quant au levier mobilisateur de la RSE d'abord, nous avons une évolution soutenue de la discipline en Tunisie. Nous sommes en attente de la promulgation d'un code de l'environnement. Et l'idée est de montrer que bien que la RSE est une démarche volontaire, son articulation à partir des principes pourrait renforcer l'intégration des préoccupations environnementales dans les stratégies des entreprises et contribuer dans le même temps au soutien des objectifs du droit pénal en amont et en aval. Et le levier mobilisateur s'appuierait donc d'une motilité à double détente au soutien de la fonction préventive du droit pénal de l'environnement et au renforcement de ses fonctions répressives, mais surtout réparatrices. Donc, les principes de prévention, précaution et diligence responsable, raisonnable participent des principes directeurs qui sont chevillés à la dimension préventive qui est recouverte par la responsabilité environnementale de l'entreprise, du principe de prévention née l'obligation pour elle de limiter les risques environnementaux avant qu'ils ne se matérialisent. Et on est en plein cœur de la démarche RSE parce qu'il va s'agir d'anticiper les risques liés à l'activité. C'est l'exigence cardinale dans notre système juridique, à l'instar d'autres systèmes de l'étude d'impact, de l'application d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministère de l'Environnement et des normes strictes corrélées à des sanctions pénales en cas de violation. Donc, c'est véritablement une approche du principe de prévention qui est encouragée par le recours à des outils de management environnemental dans la conduite d'audit ou de mise en place de systèmes de management. Le principe de précaution s'apparie à la prévention lorsque les activités présentent des risques qui sont potentiels, en l'absence même cette fois-ci de certitudes scientifiques. Donc cela signifie que par son truchement, les entreprises deviennent redevables de l'adoption des mesures qui sont nécessaires pour que toute décision d'agir ou de ne pas agir soit précédée d'une évaluation des risques et des conséquences potentielles en cas d'inaction. Et c'est tout justement l'obligation d'évaluation systématique conduite avant de lancer de nouveaux projets, l'investissement dans des technologies qui soient propres, promotrices d'innovation durable, l'engagement auprès des parties prenantes pour identifier les risques. Et donc, c'est véritablement l'approche volontaire du principe de précaution qui est encouragée à travers le levier mobilisateur de la RSE. Il y a plus encore en droit tunisien où nous sommes en attente d'un article 32 du projet de code de l'environnement qui consacre le principe de l'exigence raisonnable. Alors la question, c'est est-ce que c'est suffisant pour arguer d'une contribution qui va structurer la responsabilité environnementale en amont? Alors prendre pour pierre de touche la compensation qui participe des éléments d'étude d'impact montre qu'il y a un véritable risque en pratique. Il a été écrit qu'il s'agirait d'une sorte de marchandage où les promoteurs de promotion de projets économiques pourraient essayer d'acheter tout simplement le droit de polluer contre compensation. C'est aussi simple que ça. Donc, cela ferait dévier l'étude d'impact du but préventif initial pour en faire tout simplement un instrument de réparation. Et donc, c'est la raison pour laquelle la crédibilité de l'engagement volontaire ne peut pas faire l'impasse d'un relais structurant qui participerait à la dimension réparation-répression. Et c'est dans cette mesure-là que la contribution de l'engagement volontaire s'apparie au principe pollueur-payeur que l'on connaît tous, qui est au cœur du droit pénal de l'environnement et qui oblige les entreprises responsables de dommages environnementaux à assumer les coûts de réparation. Donc, les sanctions financières, les obligations de réparation qui sont ici imposées ont le dessein tout simplement de financer la protection de l'environnement. Il y a deux textes qui sont cardinaux dans la législation tunisienne, c'est la loi cadre de 88 et la loi de 96 évoquée ce matin suite relative aux déchets et au contrôle de gestion et de leur élimination. Sous la loupe de l'engagement volontaire, quelles observations rapides en tirer? Bien tout simplement, à l'examen de la jurisprudence pénale, il y a une place privilégiée qui est occupée par la sanction pécuniaire et peu de place concédée aux pratiques d'atténuation qui pourraient avoir pour vecteur la RSE, notamment les programmes de compliance environnementale, par exemple, ou les engagements post-sanction a adopté des politiques RSE après la sanction pénale pour éviter la récidive et pour rétablir finalement la réputation qui aurait été entachée par le prononcé de la condamnation. Par ailleurs, on a un autre problème incontournable, celui de l'élément légal, à l'égard duquel notre jurisprudence se heurte pour faire œuvre prétorienne. Il a même été écrit à l'occasion d'un dernier colloque sur l'environnement que chez nous, la jurisprudence pénale ne pourrait être d'aucun apport tant que le principe de la légalité des délits et des peines et l'interprétation stricte de la loi pénale demeurent incontournables. Pourtant, en suivant l'évolution du droit comparé et la richesse de la matière, il n'est pas impossible d'arguer que la responsabilité sociétale des entreprises puisse être une source exponentielle de responsabilité pénale des personnes morales en droit de l'environnement dans notre contexte tunisien. Donc la question pratique à laquelle il faut répondre est celle de savoir comment on pourrait opérer un glissement de la responsabilisation à celui de la responsabilité alors que la loi 2018 de la RSE, la loi tunisienne, n'intègre pas directement de sanctions pénales. L'idée est de mettre en exergue l'exponentialité du levier de la RSE dans l'élargissement des fondements de la responsabilité pénale environnementale des entreprises et poser les termes de cette évolution pourrait nous conduire vers l'essor souhaité et appelé des vœux de tous d'une justice pénale qui puisse permettre de réparer en matière environnementale. Donc, le cadre établi, vous l'aurez compris, ne prévoit pas de sanctions pénales pour le non-respect des engagements. Toutefois, quand il y a une infraction environnementale, le juge pénal peut prendre en compte les engagements RSE d'une entreprise pour caractériser la preuve d'une négligence ou démontrer la faute en matière environnementale, en renforçant ainsi sa sanction pénale. Je cite, citée par le juge pénal, la RSE viendrait au secours du droit pénal pour faciliter les éléments constitutifs, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction. Et au surplus, cela aboutirait à sanctionner pénalement, de manière indirecte, la violation d'une norme RSE. Donc, l'influence de l'adoption des normes internationales en matière de gestion environnementale apporte l'exemple d'engagements volontaires adoptés par les entreprises qui peuvent valablement être interprétés par le juge comme un standard de comportement à l'image de celui d'une personne prudente et diligente. Et c'est ce standard-là auquel l'entreprise s'oblige qui peut lui être opposé s'agissant d'évaluer le comportement fautif. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait un texte au départ, mais c'est déjà une première porte d'entrée. Donc, dans cet ordre d'idées, une entreprise qui affiche des engagements RSE dans un code de bonne conduite, dans une charte, sans les respecter, pourrait les voir retenues contre elle pour fonder une responsabilité pénale. Cela participerait d'une jurisprudence certes émergente en Tunisie, mais cela permettrait d'intégrer dûment les engagements RSE dans la responsabilité pénale environnementale de l'entreprise. Alors, en France, l'affaire tristement célèbre du naufrage de l'Erika a polarisé, il y a 2 décades déjà, cette première station. Un annotateur a d'ailleurs écrit que le raisonnement de la Cour d'appel, lorsqu'elle a reconnu la culpabilité de Total, ne manquait pas d'originalité en transformant l'engagement éthique de Total de procéder à un contrôle renforcé des navires en une obligation juridique contraignante, source de culpabilité, qui permettait au juge, aux vertus de son pouvoir d'appréciation, de tenir compte de la violation d'un engagement RSE pour établir la preuve de l'élément matériel de l'infraction. Donc, on observe bien une transformation des engagements RSE en obligations contraignantes, une sorte de glissement qui serait en Tunisie à nos portes et qui apparaît largement amorcé sous d'autres cieux dans le vôtre. J'espère simplement que le rétropédalage de la communauté européenne ne va pas venir brusquement me démentir. Ce que je voudrais dire, c'est que la Tunisie n'est pas en dehors de cette sphère d'influence et que elle est sous l'influence croissante du droit international et des mécanismes de soft law. Donc, finalement, à travers ce bref tour d'horizon comparé, une tendance inspirée par le renforcement normatif de la RSE pourrait fort bien se dessiner de plus en plus nettement autour d'une transformation progressive de la RSE en obligation légale. Et tout justement, si en Tunisie, contrairement à d'autres systèmes juridiques, l'évolution est encore étrangère au délit de mise en danger de l'environnement ou encore au délit d'écocide, il faut rester positif et l'évolution souhaitée contribuerait à transformer ainsi le modèle punitif classique vers une justice pénale qui soit restauratrice. Alors la position participe d'une idée forte et elle demande à vrai dire de dépasser un argument de logique qui est formel et qui cantonne la RSE à une responsabilisation ex ante, motrice d'une seule réparation proactive des démarches environnementaux. Et l'idée est donc d'avoir une approche globale de la protection de l'environnement, où la RSE, la justice pénale, crée une dynamique de responsabilité de réparation des dommages, instigatrice de solutions efficaces à travers la virtuosité d'un cercle. Quel serait ce cercle? Une stratégie RSE bien appliquée conduit pour l'avenir à un renforcement des engagements RSE. Mal appliquée, elle conduit à un renforcement des engagements RSE imposés par le juge pénal. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un peu l'idée qui est derrière la Convention judiciaire d'intérêt public en France. Certains d'y avoir vu en doctrine la tendance de la RSE à s'imposer de plus en plus comme une source exponentielle de responsabilité environnementale. Alors, somme toute, en Tunisie, l'Union est encore à sa phase originelle. C'est la raison pour laquelle la métaphore des noces de coton a été posée. Le potentiel d'évolution est fort. Il reste que l'argument de nécessité économique dans un paysage économique tunisien composé de petites et moyennes entreprises amène à prendre véritablement un pari qui peut sembler incongru sous les cieux de la Tunisie, et il serait celui d'avancer que l'avenir du régime de réparation du préjudice environnemental passe par la RSE. Monsieur le Président, je vous remercie.
Merci beaucoup.